Cette balado-diffusion est une production de Delta Media.
Fréquence. Bienvenue à Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Et aujourd'hui, petit changement à l'horaire. Je vous avais dit à l'émission précédente que la prochaine serait sur le diable. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Car je manquais de temps, j'avais un conflit d'horaire avec mon invité qui fera l'émission avec moi. Et on voulait prendre le temps de faire une bonne recherche pour vous donner une émission le plus complète possible. Donc, et comme nous sommes en plus au mois d'octobre et tout près de l'Halloween, il était normal de faire plutôt une émission spéciale Halloween. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de thème, quoique il y aura beaucoup d'anecdotes de fantômes. Mais sinon, on va aussi parler de magie noire et même de vampires. Mais j'avais commencé le tout avec les origines de l'Halloween. L'Halloween puise ses origines païennes des mythologies celtiques et romaines. Au temps des druides, le 31 octobre marquait la fin de l'année. Le nouvel an celtique, le 1er novembre, coïncidait alors avec le début de l'hiver. Comme ce passage entre l'automne et l'hiver évoque aussi celui de la lumière vers les ténèbres, on y fêtait Samhain, dieu des morts. Pour guider les âmes errantes et chasser les mauvais esprits, les druides allumaient des feux et se livraient à des pratiques divinatoires afin de sonder la nouvelle année. De nos jours, c'est plutôt la fête des saints, la Toussaint, qu'on souligne le 1er novembre. Les manifestations autour du 31 octobre sont désignées par le terme Halloween, contraction de All Hallow Eve, qui signifie veille de la Toussaint, depuis le Moyen Âge chrétien, entre autres par les Irlandais convertis au christianisme à partir des années 300-400. Au Québec, fantômes et sorcières seraient apparus vers les années 1920-1930 à Montréal, sous l'influence des anglophones, probablement de souche irlandaise. Et pour ce qui est de l'expression « trick or treat », cette formule que lancent certains enfants pour ramasser leur butin est en fait une douce menace. En Écosse, autrefois, on punissait par de mauvais tours ceux qui n'avaient pas fait le plein de friandises ou qui ne recevaient pas les Halloweeneux. Et que dire de Jack O'Lantern? Vous éclairez votre maison avec une citrouille édentée et grimaçante? Cette coutume proviendrait de la légende irlandaise de Jack O'Lantern, qui fut condamné à errer jusqu'au jugement dernier avec pour seul accessoire une lanterne. J'avais aussi entendu dire que, bien avant les citrouilles, certaines personnes utilisaient des navets, si je me rappelle bien. Ils décoraient là, des navets avec une chandelle dedans. Alors voilà pour la petite page historique de l'Halloween. Et après la pause, je vais vous parler du mythe, un des mythes les plus populaires, celui des vampires.
Ce podcast est hébergé par 3Dev sur un serveur québécois. Vivez la vitesse en consultant le vite.3dev.net. Dépêchez-vous!
Verrouillez vos portes, barricadez vos fenêtres, éteignez les lumières et allumez plutôt une chandelle ou une citrouille, car... Vous êtes de retour spécial à Halloween. De fréquence. Les vampires, est-ce que ça existe? Ben, en partant, on sait qu'il y a une maladie, le vampirisme, qui est connu sous le nom de porphyrie. Il y a différentes variantes de la maladie. Il y en a que c'est une pousse des poils dans le visage de façon exagérée. Mais à la base, c'est d'avoir la peau très sensible au soleil de façon mortelle. Et comme les albinos, ils ont pas de pigmentation dans la peau. Mais si on va plus loin, j'ai déjà lu un livre qui s'appelait Le vampirisme. On disait que lorsqu'on soupçonnait quelqu'un d'être un vampire, quelqu'un qui était décédé, on ouvrait les tombes et souvent, on était surpris de découvrir que les corps contenaient du sang frais. Et on en avait déduit que ces vampires, ces personnes à demi mortes, à demi vivantes, se dédoublaient un deuxième corps astral, palpable, et allaient mordre leurs victimes et nourrissaient leur corps original dans la tombe de sang. Et comme finalement les vampires, c'était un genre de fantôme palpable que seulement certaines personnes pouvaient voir. Et ça explique pourquoi il n'y avait pas de reflet dans le miroir. Alors ce soir, j'ai deux invités, Anouk et Laura, qui vont nous raconter une à une au moins deux histoires chaque. Et moi aussi, j'en ai deux à vous raconter. Et nous allons commencer avec Anouk et son histoire de magie noire.
Alors, il fut un temps où, où la magie noire, disons, m'intriguait énormément. J'avais écouté le film Magie noire un été, et puis ça m'avait vraiment passionnée. Et j'ai rencontré une vraie de vraie sorcière. Mais en fait, on restait dans une maison faite en bois, toute pièce sur pièce, qui était vraiment très spéciale parce qu'on avait l'impression que dans cette maison-là, il y aurait un lutin qui sortirait d'un placard. Et on était plusieurs colocataires. Et il y a un des gars de l'appartement, de la maison, qui s'est fait une blonde, qui s'appelait Nancy. Pareil comme dans le film Magie noire.
Magie noire, qui en anglais s'appelait The Craft. Et c'est sorti en 1996.
Alors, c'est en 1996 que ça se passait, en fait, en automne. Nancy arrive, bon, je rencontre, et puis elle me parle, on se met à parler de magie, et elle me dit qu'elle fait de la magie noire. Et moi, ça m'intriguait, là, j'ai eu les yeux grand écarquillés, j'étais vraiment intriguée par ça. Et elle m'expliquait qu'elle vivait toutes sortes de choses vraiment étranges, parce qu'elle dit qu'elle se réveillait parfois en plein milieu d'un cimetière, que... elle n'avait pas eu de souvenir de s'être rendue dans ce cimetière-là. Puis, en tout cas, elle avait l'air à trouver ça spécial. Elle a dit qu'elle en faisait... un moment donné, elle en a fait beaucoup, puis qu'elle a arrêté parce que ça venait vraiment toute ridée en dessous des yeux, des gros cernes. Elle dormait mal. Elle était... En fait, je pense que sa magie noire consistait à aller... à prendre contact avec des esprits malins. Et elle s'adonnait à l'écriture automatique. Et ces écritures automatiques étaient vraiment très dark. En tout cas, moi, je les ai pas lues personnellement, mais mon copain à l'époque était tombé là-dessus et puis il capotait un peu parce que c'était un peu chaotique, mais en même temps vraiment vraiment sombre et épeurant, en fait, et un peu diabolique, là. Donc, notre chère Nancy, qui vivait sous le même toit que moi, était pas mal weird. Et il y a une soirée où est-ce qu'on s'est installés tous ensemble. On était quelques-uns, bon, on se faisait comme un genre de petit party, puis on écoutait de la musique. Puis, moi, j'ai terminé une peinture, parce que je fais de la peinture, puis je termine une toile. Tout le monde me disait « Anouk, sors de ta bulle un peu, tu sais, puis viens triper avec nous autres, tu sais. » Mais ça allait bien, le temps que j'étais dans ma toile, j'étais super inspirée. quand j'ai lâché mon pinceau, puis que là, je me suis retournée, puis je me suis mis installée avec les autres, ben, je me suis mis à me sentir comme vraiment... comme je me sentais vraiment pris. Je me sentais pris, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'avais de la difficulté à parler, à bouger. Ce que j'arrivais pour dire, ça marchait pas. Puis là, je me dis, bon, il y a de la musique, je vais danser un peu. Je me lève. Puis, j'étais pas capable de danser. Je me sentais vraiment, là, inhibée. Je pouvais pas rien faire, là, tu sais. Ça m'énervait. Je m'assois à côté de Jennifer, qui était tout près de moi, une amie. Puis elle arrêtait pas de se lever, s'asseoir, tu sais. Elle filait pas, tu sais, puis elle savait pas trop. Dans un autre coin de la pièce, il y avait un autre de mes amis, qui avait ses lunettes fumées en pleine soirée à l'intérieur. Et il y avait mon copain à l'époque qui était super high, là. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il était super speedé, puis il était high. En tout cas, ça faisait tout un portrait. Et puis, à un moment donné, je me retourne vers Jennifer, puis elle me dit... Moi, là, elle dit, il y a quelqu'un ici que je trosse pas, là, que je suis pas capable de sentir. Puis là, elle me fait signe, puis elle me pointe Nancy. Et Nancy avait les yeux noirs, luisants. C'était vraiment bizarre, hein. Ça brillait, là. J'ai jamais vu des yeux comme ça. On aurait dit qu'elle pleurait. Mais elle pleurait pas parce qu'elle avait un sourire machiavélique, là. Puis elle nous regardait, tu sais, dans la pénombre. Puis en tout cas, là, on s'entend qu'on s'est mis un peu à freaker à ce moment-là. La chandelle arrêtait pas de sautiller tout le temps. Puis bon, on sentait qu'il y avait quelque chose de malsain dans la pièce quand même. Fait que, bon, on a décidé de sortir de la maison. On est parti, on était quatre, on s'en va se promener dans le bois. Et tout le long, j'avais seulement que le visage de Nancy dans la tête. Je fermais les yeux, puis c'était elle que je voyais tout le temps. Je capotais un peu parce que j'avais beau essayer de la chasser de mon esprit, qu'elle revenait tout le temps.
Elle t'avait envahi.
Envahi ou envoûté ou ensorcelé. Je sais pas, mais je sais en tout cas que c'était la même chose pour Jennifer. Et mon copain, à ce moment-là, c'était complètement fou parce que lui, il arrêtait pas de danser. Bon, c'était quelqu'un d'assez excentrique, mais il arrêtait pas de danser. Puis de giguer en plein dans le chemin, parce qu'on était dans le bois.
Est-ce que c'est le même bois?
C'est le même bois que Ouija. et c'est ça, il arrêtait pas de giguer, il chantait, puis il était de bonne humeur, comme extrêmement bonne humeur. Et là, ben c'est ça, Jennifer, elle ressentait la même affaire, puis elle était super angoissée. On est arrivé jusqu'au bout du chemin, il y avait un pit de sable. Et puis, c'est vraiment bizarre parce que je me sentais comme envoûtée. Puis, j'ai tendance à former des visages dans le sable avec mes mains. Puis, à chaque fois, je voyais le visage de Nancy partout. C'était fou, en tout cas. Et là, on s'est toutes regroupées, toutes les quatre. On a fait un cercle. Puis, on a essayé vraiment de la chasser, finalement. Ça a réussi pendant un petit moment où est-ce qu'on s'est senti bien et libérés. Et par contre, dès que le manque de concentration revenait, pouf, ça recommençait. Puis c'est ça, j'étais vraiment terrifiée de cette histoire-là. En s'en revenant dans le chemin, j'essayais tant bien que mal de garder mon calme. Puis quand on est arrivé à la maison, Nancy et son chum étaient restés là. La première chose que Nancy m'a dit avec un grand sourire machiavélique, c'est « Où est-ce que vous étiez? À un moment donné, je vous voyais plus. Je sais pas pourquoi. » Alors là, j'ai compris qu'elle faisait probablement référence au moment où est-ce qu'on s'est mis en cercle puis qu'on s'est mis à se sentir bien à ce moment-là parce que c'était vraiment étrange, là. C'est comme si elle faisait de la visualisation tout le long dans sa tête. Et puis, il y a un moment où elle nous a perdus, qu'elle n'était plus capable de nous rejoindre. Et c'est à ce moment-là, finalement, probablement. C'est ce que j'ai pensé. Et, bon, cette nuit-là, on a passé une nuit blanche. Puis le reste de la nuit, je sentais là constamment des petits vents froids glaciaux qui me passent dans le cou. Comme des petits courants d'air vraiment étranges, là, constamment, tu sais. Puis c'est ce genre de courant-là que j'ai ressenti à d'autres moments aussi, qui m'ont quand même... comment je peux dire? En tout cas, que j'en suis venue à reconnaître un peu, là, parce que je trouvais assez spécial. Faut dire qu'à ce moment-là, à cette époque-là, parfois, je me salais avec mon chum, puis on essayait de regarder nos auras. Et, tu sais, j'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans, que j'ai toujours fait des expériences à sentir l'énergie. Et puis, bon, je peux pas prétendre être une guérisseuse ou quoi que ce soit, mais je sais juste que j'ai développé un petit peu cette sensibilité-là. Et c'est ça, les genres de petits vents froids et glaciaux, c'est vraiment pas agréable. Et c'est ça pour cette histoire.
Donc, rien de mieux qu'une nuit blanche pour survivre à la magie noire. Eh bien, encore une fois, tu réussis à nous faire dresser les poils et à nous donner la chair de poule. Alors, restez près de la lumière jusqu'au retour de la pause.
Parez votre âme de ses plus sombres atours. Au www.divisiongothique.com, procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre âme.
Moi aussi, j'ai une expérience, à part celle de Ouija, là, qui a fait que j'ai voulu arrêter d'être en contact avec ce genre de choses. C'est qu'on avait un nouveau passe-temps, moi et mes amis. C'est que chez un de mes amis, dans son salon, il y avait deux lumières qu'on pouvait tamiser graduellement avec le bouton qu'on tourne. Fait qu'on était chacun à l'extrémité du salon, puis on descendait tranquillement la lumière, puis on se fixait dans les yeux. Fait que là, ça faisait une espèce d'expérience là, que le visage changeait. Bon, c'était trippant, c'était épeurant un petit peu, puis tu sais, bon, on collait rien, là, je veux dire. On n'appelait pas d'esprit, quoi que ce soit. Puis un soir, ben, il y avait un autre de nos amis avec nous. On a décidé de faire une expérience dans le même genre, mais là, on se servait pas de lumière, on avait simplement une chandelle. Puis, comment faire pour se fixer à trois? Fait que, je nommais juste leur prénom. Sylvain et Eugène se fixaient. Moi, je fixais Sylvain, mais dans le fond, il me regardait pas, il regardait Eugène. Okay? Donc, moi, c'était un fixe à moitié, finalement. Puis, ça pouvait donner une illusion semblable à la lumière tamisée à cause de la chandelle qui bouge tout le temps. Bon. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai comme commencé à voir un autre visage, celui de Sylvain. Puis, je voyais à travers ce nouveau visage-là, je voyais le sien en arrière. Fait que je voyais que lui regardait toujours Eugène, mais que le nouveau visage, lui, me regardait moi. Puis, c'était un visage gris, vraiment laid, avec des yeux genre un peu jaune pâle. Puis, sa tête, c'était comme boursouflé. Peut-être des cheveux frisés, je ne sais pas, mais je voyais comme des bosses. Puis là, il s'est même faire un sourire en coin en plus, de me regarder. Puis là, je sais pas, ma respiration, elle s'est mise... je respirais full vite, là, puis j'étais pris. Là. Puis là, la fois, je me concentre pour essayer de crier, pour me défaire de cette espèce d'envoûtement, si on veut. Fait que j'ai réussi à crier. Fait que là, les deux autres ont fait un saut. Fait que là, j'ai réussi à le défixer. Puis aussitôt que je l'ai regardé, le visage est revenu tout de suite. Fait que là, là, je me suis levé debout. Je capotais. Là, je le regarde encore. OK, là, c'était correct. Mais j'en ai eu pour une demi-heure à reprendre mon souffle comme du monde. Puis là, je lui ai fait un dessin. Moi, je ne sais pas dessiner. Là. Je lui ai fait un dessin vite, vite. Là. Puis c'est pas compliqué. On était chez Sylvain, puis il dit on brûle ça. Là. Je veux même pas que cette feuille-là reste là. J'avais jamais vu, ça c'était en 95. J'avais jamais vu un visage comme ça. Ben, pas qu'il était si exceptionnel que ça, mais j'avais pas de référence à nommer. Là. J'avais pas vu de masque en caoutchouc pour l'Halloween, tout ça. J'avais pas vu de quelconque monstre d'un film d'horreur qui avait ce visage-là. Mais plus tard, par exemple, en 1999, la vague des films sur les films du diable, genre, là, c'était le film « Béni soit l'enfant ». C'était avec Kim Basinger. Et puis, une affaire là, de... La petite fille est comme un peu... elle a un don de Dieu. Et évidemment, le diable qui essaye d'avoir cette petite fille-là pour l'avoir de son côté, avoir son pouvoir. Puis là, il y a une espèce de... Une femme, c'est ça, là, une genre de servante de la famille, femme de maison. D'habitude, dans les films d'horreur, ils sont jamais très... jolie et gentille. Bref, dans ce film-là, il y a une madame comme ça qui poursuit l'enfant. À un moment donné, il y a une scène qui se sauve dans un métro. Puis la bonne femme, en tout cas, la madame, elle arrive dans la porte du métro, elle fesse un coup de poing dans la fenêtre. Et là, son visage change. Et c'est pas mal le visage que j'ai vu. Et là, j'ai vu que finalement, les bosses à la tête, c'est que ses cheveux, c'est des serpents, genre. Là, ça, puis elle avait vraiment une attitude là, dans le regard, tout ça. C'était très, 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 très près de ce que j'avais vu. Donc, en tout cas, je vais m'organiser peut-être pour mettre l'image sur le site. Nous allons maintenant écouter Laura avec son histoire, sa première histoire de fantôme.
Je vais commencer d'abord par un personnage qui s'appelle le docteur Douglas. C'était, bon, comme ça le dit, c'était un docteur. Il était aussi professeur en médecine et il était aussi chercheur. Il travaillait beaucoup sur l'anatomie. Il était originaire d'Écosse, si je me souviens bien, mais éventuellement, il s'est ramassé dans le nord de l'État de New York. Et là-bas, il faisait des recherches, comme je disais, sur l'anatomie. Mais à cette époque-là, bon, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens peuvent donner leur corps à la science, et puis il y a des cours d'anatomie et tout ça. Mais à cette époque-là, c'était plus de l'exploration. Donc, ce qui se passait, c'est que la morgue locale donnait aux docteurs des cadavres qui n'avaient pas été réclamés, comme des sans-abri ou des vieillards qui n'avaient pas de famille, des choses comme ça. Et le docteur Douglas et ses étudiants, éventuellement, faisaient des autopsies sur ces cadavres-là pour savoir où étaient les organes, comment ça fonctionnait et tout ça. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que la morgue a remis au docteur Douglas un corps, pensant que c'était le corps d'un sans-abri ou d'un ivrogne et tout ça. Mais il y avait eu erreur sur l'identité et finalement, ce corps-là, c'était le corps d'une personne quand même assez haut placée dans la communauté, un politicien ou un homme d'affaires très en vue, là, je sais pas exactement. Donc ça a causé vraiment de gros problèmes, là, parce que dans le fond... Ce que le docteur Douglas faisait, c'était accepter, mais c'était pas vraiment complètement légal. Donc, quand il a vu ça, quand il a vu qu'il y avait eu erreur sur l'identité de la personne, ben là, il a tout emballé ses affaires et il est parti au beau milieu de la nuit et il s'est ramassé à Québec. Et là, à Québec, il s'est installé, ça s'est quand même bien assez bien passé. On le connaît surtout parce que à l'époque de la famine en Irlande, il y a des Irlandais qui sont venus au Québec, qui se sont arrêtés à Grosse-Île. Et il y a plusieurs Irlandais qui étaient malades. On ne savait pas trop si c'était le typhus ou autre chose. Et c'est le docteur Douglas qui s'occupait d'eux. Donc, si on lit des livres sur l'histoire de Grosse-Île, on va rencontrer le nom du docteur Douglas. Mais le docteur Douglas avait aussi une école de médecine à Québec, supposément dans le Vieux-Québec, près de la Place Royale. Et au départ, il faisait toujours ses recherches sur l'anatomie dans le sous-sol de la maison qu'il avait. Mais éventuellement, il a commencé à avoir un peu plus d'étudiants en médecine. Donc, il a décidé de prendre les étudiants en pensionnaire. Et donc, il a transformé le sous-sol où il faisait d'habitude ses autopsies en cuisine. Et il y avait des chambres en haut pour les étudiants et tout ça. Et donc, un soir où... c'est-à-dire que d'abord, il y avait la cuisinière qui travaillait là, qui, elle, disait tout le temps qu'elle voyait des fantômes constamment. Elle racontait ça aux étudiants qui étaient là. Mais évidemment, c'était des étudiants en médecine, donc c'était des gens très rationnels, donc ils croyaient pas du tout à ça, et puis ils se moquaient un peu d'elle, et ses superstitions et tout ça. Mais un soir, il y a un étudiant comme ça qui était resté à la maison, à l'école, au pensionnat, seul pour continuer à faire ses études et tout ça. Et à un moment donné, il a eu faim, donc il a décidé de descendre à la cuisine pour chercher quelque chose à manger. Et puis là, en descendant, il y avait une espèce de poêle à bois pour chauffer la cuisine. Et il y avait quelqu'un, une personne, un homme, assis devant ce poêle-là, la tête penchée par en avant, donc l'étudiant en médecine ne pouvait pas voir le visage de l'homme en question. Et il avait les pieds étendus vraiment sur le bord du poêle, comme pour se faire chauffer les pieds. L'étudiant se disait, c'est pas quelqu'un que je connais, mais il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Sauf qu'à un moment donné, il a dû aller au poêle, probablement parce qu'il voulait faire cuire quelque chose, ou je ne sais trop, mais en tout cas, il a voulu ouvrir la porte du poêle. Donc, il a dit au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez tasser vos jambes, que je puisse ouvrir la porte du poêle? Mais le monsieur a pas bougé, il est resté comme ça, il a pas levé la tête, il a pas enlevé ses pieds, rien du tout. Donc, l'étudiant en médecine a décidé de redemander à la personne, tout en essayant de rester le plus poli possible, « Pouvez-vous enlever vos pieds, s'il vous plaît? » Le monsieur n'a toujours pas bougé. Donc, finalement, l'étudiant a perdu un peu patience. Il a décidé d'ouvrir la porte quand même. Il s'est dit, si j'ouvre la porte, le gars, il va finir par enlever ses pieds, ou sinon, il va avoir la porte ses pieds. Mais il a ouvert la porte, et la porte a passé carrément à travers les jambes de la personne qui était assise là. Donc là, évidemment, le médecin a trouvé ça un petit peu spécial. Il restait un peu sous son choc, mais il a réussi quand même à garder son sang-froid. Sauf que là, éventuellement, la personne a relevé la tête et là, l'étudiant en médecine a vu que le gars avait plus de visage, comme si on lui avait enlevé carrément la peau puis on voyait juste les muscles faciaux en dessous. Donc là, évidemment, l'étudiant en médecine a eu extrêmement peur, il est remonté en courant et puis... Mais cette histoire-là, pour une raison que j'ignore, il a décidé d'en parler, mais dans un journal de médecine. Donc, il existe un journal de médecine de l'époque, un journal anglophone, américain, où l'étudiant raconte cette histoire-là et où il explique que non, il n'avait pas bu, non, il n'avait pas mangé de nourriture avariée, que c'était pas une hallucination, qu'il avait vraiment vu ce qu'il avait vu. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il se moquait plus de la cuisinière non plus. Donc ça, c'est l'histoire de l'école du Dr Douglas.
Alors, merci Laura. Et nous allons, après la pause, poursuivre avec Anouk.
Ici François Gauthier.
Et Danny Nadeau.
Pour être à jour avec le 7e art,
visitez cinemascope.deltar.net.
Vous aurez droit aux sorties en salle,
sorties DVD,
des critiques de films
et des concours.
Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinémascope en balado-diffusion sur cinemascope.deltar.net
ou balado-diffusion.blogspot.com.
Cinémascope,
le podcast
des cinéphiles.
Alors, de retour à l'autre histoire d'Anouk qui a senti une présence dans sa chambre.
En fait, ça l'a suivi des épisodes que j'ai racontés précédemment, des Vieilles Forges. Mais là, c'était plus aux Vieilles Forges parce que là, j'ai déménagé. En fait, les liens de notre petite famille d'amis se sont éclatés. En fait, il y a eu un paquet d'histoires vraiment étranges qui se sont passées. Et des relations qui ont éclaté, qui ne fonctionnaient plus. Alors, je me retrouve dans la chambre chez mon père, à peu près 10 minutes des Vieilles Forges, en fait, mais quand même. c'était pas la même place. C'était dans ma chambre d'enfance, finalement, que j'étais retournée. En arrivant là, j'ai fait une petite cérémonie pour souligner le fait que j'arrive dans ce nouvel endroit qui était rempli d'anciens souvenirs. Pour refaire ma place, mais
éloigner les ondes négatives.
Ouais, ben c'est ce que j'ai pas fait en fait. le problème, c'est que je leur ai un peu souhaité la bienvenue, ben indirectement. C'est qu'en fait, j'ai fait un rituel comme pour dire, m'harmoniser avec ce qui était en place. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans les 2 mois qui ont suivi, pendant 2 mois, j'ai senti vraiment des présences dans ma chambre. Ça se produisait surtout avant de me coucher, en me couchant. Je sentais souvent comme une présence, des picotements dans mes pieds qui montent de plus en plus. Et puis c'était vraiment étrange, c'était comme presque palpable comme sensation. Et à chaque fois que ça arrivait, mon chat venait se coucher à côté de moi. Presque tout le temps. C'était bizarre, mon chat est un peu protecteur, je sais pas. Et ça m'arrivait régulièrement, en fait. Puis avec toutes les histoires que j'avais vécues avant, de sensations, ben, disons que j'avais la frousse. Et une nuit, j'ai fait un genre de rêve qui était pas loin d'un voyage astral, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement que c'était extrêmement lucide comme rêve. J'étais assis dans mon lit. Il faisait très, très noir. Puis il y avait un visage devant moi qui me regardait, puis qui me parlait, vraiment bizarrement, en tout cas. Qui me parlait avec une voix très, comment dire, lourde ou lente et grave. En tout cas, c'est... Et puis moi, ça m'a effrayée. Et je me suis réveillée, je me suis assise dans mon lit carré en pleine nuit. Il était 4 heures du matin. Tout de suite, mon chat est arrivé à la course dans ma chambre, puis il est venu se coucher à côté de moi. Je me suis recouchée dans mon lit avec mon chat à côté de moi, la lumière ouverte, et mon chat regardait au-dessus de moi et il n'arrêtait pas de suivre quelque chose qui tournait des yeux. Il était subjugué par quelque chose qu'il y avait au-dessus de moi, en fait. Et là, je la trouvais pas drôle. J'aimais pas ça. Puis je me suis sauvée chez une de mes amies qui me croyait un peu folle. Mais en tout cas, je l'ai appelée en pleine nuit. Mais avant que je parte, je suis descendue dans le salon en bas. Et puis les deux regardaient la même chose qui tournoyait dans le salon à grandeur de la pièce.
Attends, tu peux. Là, t'es allée chez ton ami.
Pour aller chez mon ami, je suis descendue dans le salon.
OK. Là, t'as deux chats.
Oui, j'ai deux chats. Ben, j'en avais un qui était mon chat à moi, puis l'autre qui était la chatte à mon père. OK. Et bien là, la chatte à mon père, puis mon chat, ils regardaient tous les deux la même chose. Ils tournaient la tête, ils regardaient comme quelque chose qui tournoyait autour de moi. Et là, je capotais parce que j'avais l'impression de ne plus être chez moi, finalement. Pendant ces 2 mois-là, il y a un moment où est-ce que... ma table de dessin était dans ma chambre. Et j'ai fait un dessin. Et j'ai dessiné le visage d'une femme. Et elle avait les yeux mauves, ben violets en fait. Puis elle avait l'air de sortir d'une forêt, une forêt sombre. Son visage était vraiment très comme enfoncé dans le papier. Il était enfoncé vers un genre de trou sombre, non, vert, verdâtre en tout cas. Et puis pendant que je dessinais, je sentais quelque chose me tourner autour. Puis je sentais exactement les petits vents glaciaux que j'avais sentis autrefois. Et c'est ça, c'était vraiment spécial. J'avais l'impression un peu d'être en train de la dessiner, cette présence-là. Et par la suite, je suis allée voir un de mes amis qui fait des traitements énergétiques, puis qui avait un rituel pour éloigner ces mauvais esprits-là. Il est venu chez moi, puis on a fait un rituel, et puis il a fait vraiment le rituel... Le rituel, finalement, de demander aux êtres de lumière, à mon guide, à son guide, de venir et d'être là. Et de mettre cette présence-là, cet esprit-là, de l'acculer au pied d'une mur et lui dire « Si tu veux rester dans l'ombre, tu retournes dans la terre. Et si tu veux... et si tu as besoin d'aide, puis si tu as envie d'être aidé, puis de passer vers la lumière... ben, passe vers la lumière, mais reste pas ici. » Puis après ce rituel-là, je me suis sentie super bien. J'ai pu ressentir rien chez moi. J'ai pu ressentir rien. Puis à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté tout ce qui était ésotérique. Tout ce qui était... même que j'ai arrêté de faire de la méditation, j'ai arrêté de me préoccuper de ce que je ressentais. Parce que ça m'épouvantait. J'avais l'impression de retomber dans un état parallèle où est-ce que je pouvais être trop facilement en contact avec ça. J'ai arrêté.
Je vais maintenant vous raconter une des plus terrifiantes que j'ai entendues. C'était dans ma famille. Et en tout cas, j'espère un jour interviewer mon oncle qui pourrait la raconter lui-même. Parce que moi, je l'ai su d'une tante. Donc, encore une fois, j'ai jamais entendu lui la raconter. Alors, mon oncle restait au deuxième étage. C'était juste un logement à deux étages. Puis, c'est un après-midi d'hiver. Puis, sa femme et sa fille devaient partir faire l'épicerie. Fait que lui a décidé de faire une petite sieste en attendant. Fait que, il s'est assoupi un petit peu, puis je sais pas, au bout de 10-15 minutes, il entend marcher dans les escaliers dehors. Fait que là, il se dit, déjà, fait que là, ils ont peut-être oublié quelque chose. Fait qu'il va voir. Puis là, il y a un véranda aussi. Fait qu'il va voir dans le véranda, puis il regarde par la fenêtre, puis il n'y a personne. Bon. Fait qu'il va se recoucher. Après ça, encore une fois, là, peut-être 10-15 minutes plus tard, il entend marcher dans l'escalier, puis c'est vraiment là, des gros coups. Là. C'est assez, là, puis t'as pas le choix, faut que tu te lèves, qu'est-ce qui se passe. T'sais? Fait qu'il retourne voir, il n'y a personne. Là, il disait peut-être quelqu'un qui cherche une personne, puis il sait pas trop si ça reste en haut ou en bas, puis bon, peu importe. Fait qu'il va se recoucher. Puis là, je pense qu'il réussit à s'endormir au moins une demi-heure. Peut-être même plus, là, mettons une heure. Fait que là, finalement, ça cogne. Fait que là, il se dit, bon, ben ça doit être ma femme qui revient, puis que là, ils ont tellement les mains pleines... elle et sa fille qui peuvent pas ouvrir la porte. Fait qu'il arrive dans le véranda et c'est pas sa femme. C'est une vieille madame. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est l'hiver puis elle est juste habillée avec une robe, pas de manteau. Elle est toute habillée en blanc avec une espèce de voile blanc. Puis c'est une vieille madame aux cheveux blancs. Puis c'est ça, là. Puis, tu sais, toute petite, là. Puis là, elle n'est pas habillée pantoute pour être dehors, tu sais, l'hiver. Puis là, mon oncle qui me demande, c'est qui êtes-vous, puis c'est, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Et là, elle commence à lever la main vers lui, puis elle commence à faire un son strident. Là. En tout cas, mon oncle, les cheveux drettes sur la tête, il dit, regarde, c'est pas compliqué, j'ai fermé les yeux. Il dit, je voyais pas à ça. Là, il dit, j'ai les ouvert, puis t'es plus là. Il s'est pas recouché. Il a attendu que sa femme arrive. Et finalement, Laura, tu vas conclure l'émission avec ta dernière petite anecdote.
Donc, c'est à une certaine époque, je travaillais pour une entreprise touristique et on faisait une visite dans une église de la ville de Québec, une église qui était supposément hantée. Et puis, sauf que moi, bon, je suis allée souvent dans cette église-là, évidemment, puisque je faisais des visites-là. J'y allais à tous les soirs pendant au moins 2 ans. Et puis, c'était jamais rien produit. Par contre, moi, un peu à la blague, ce que je faisais à chaque fois que j'arrivais dans cette église-là, c'est je disais toujours « Bonjour, Madame Fantôme ». Et puis, quand je repartais, je disais toujours « Bonjour, Madame Fantôme ». Et donc, je sais pas s'il y avait vraiment un fantôme qui était là ou pas. Peut-être que finalement, vu que je lui disais bonjour et bonsoir, elle me trouvait respectueuse et puis elle décidait d'être gentille avec moi, je sais pas trop. Mais il reste qu'à un moment donné, il s'est passé quelques événements personnels qui ont fait que je sentais que c'était plus vraiment ma place de travailler dans cette entreprise-là. Mais bon, la décision finale d'arrêter de travailler là n'avait pas été encore vraiment prise. Et puis, j'étais en train de faire ce que j'ignorais être ma dernière visite. Mais ça s'est avéré être ma dernière visite. Et quand je suis arrivée à cette église-là, nous, on avait une clé pour pouvoir entrer à l'intérieur de l'église. Donc, j'entre ma clé dans la serrure et tourne de l'autre, la serrure ne veut pas ouvrir. Donc là, évidemment, j'ai 20-30 personnes derrière moi qui attendent et puis c'est leur dernière histoire et puis c'est comme le clou de la visite. Donc, je me dis, ils vont perdre patience un peu. Donc, j'essaie de pousser la clé un peu plus loin. Je tourne d'un bord, tourne de l'autre, ça marche pas. J'essaie de la rentrer moins loin, essaye encore. Et là, à un moment donné, je me dis dans ma tête, OK, Madame Fantôme, là, je le sais que c'est plus ma place ici, là, que je devrais changer de travail, mais là, j'ai des gens avec moi et eux, ils veulent entrer et donc il faut que je rentre. J'entre ma clé dans la serrure une autre fois, je tourne, la porte s'ouvre comme un charme. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y avait vraiment un fantôme ou pas? Je sais pas. Mais moi, j'ai pris ça quand même pour un signe qui me disait que c'était plus ma place et qu'il fallait que je passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, s'il y avait effectivement un fantôme dans cette église, je lui dis un grand merci.
Ouh, c'est fréquent.
Alors, merci à vous, chers invités, Laura et Anouk, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, qui avait été fidèle depuis le début de l'émission, depuis en fait que Fréquence est en ligne. Et en réalité, j'avais planifié terminer l'émission, la série au complet, avec le spécial Halloween, mais comme l'émission du diable n'est pas encore faite, eh bien, ça continue. Et qui sait, peut-être qu'au fur et à mesure, il y a d'autres sujets ou d'autres anecdotes qui vont arriver. Et à ce moment-là, la série va survivre encore. Mais disons que, en théorie, après celle du diable, ça serait terminé. Mais ils vont toujours rester en ligne. Et puis, on ne sait jamais, des fois, il pourrait y avoir des special editions, des hors-séries. Mais c'est ça. Surveillez le site de temps en temps. Alors, merci d'avoir été fidèle et continuez d'être aux aguets, car on ne sait jamais. Et là-dessus, je vous dis joyeux Halloween et à la prochaine, si les entités de l'univers le souhaitent.